Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps co-animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi et je le reprends aujourd'hui en solo. Parce qu'il est temps en 2020 de laisser les mecs parler. Alors vous allez me dire, mais on entend qu'eux, ils prennent tout l'espace de parole, etc., etc. Alors oui, c'est pas faux. Mais on entend trop rarement les mecs parler de leur rapport à la masculinité. C'est donc ce que je propose ici à mes invités. Pensez à vous abonner au podcast, je vous pose tous les liens dans les notes de cet épisode. Mettez-lui une bonne note sur Apple Podcast et tant que vous y êtes, partagez cet épisode ou ce podcast à des mecs autour de vous. Ils vous en remercieront tôt ou tard. Merci d'avance et bonne écoute. Comment ça va Olivier ?
Eh ben écoute, ça va. Je suis en plein post-déconfinement avec un petit peu de décalage.
Ok.
Et comme je te le disais tout à l'heure, je pensais pas, mais ça a remué pas mal de trucs dans ma vie et un peu à l'intérieur. Et du coup, je gère un peu tout ça.
Ok.
Mais je suis plutôt content. Ça me fait plutôt du bien. Ça me permet d'avancer niveau boulot. Ça m'a fait avancer niveau perso. Je suis assez content de ça.
Je te sens un peu tendu.
Non, ça va.
Ça va ?
Ouais.
Ok. Ça va bien se passer, hein ?
Ouais.
Est-ce que c'est pas un secret si je dis que t'étais le patient du zéro du Boys Club?
Exactement. Victor, si je me souviens bien.
C'était ça. Ouais. Donc, en gros, pour resituer un petit peu l'histoire, mais dis-moi si je me trompe de mon point de vue en tout cas,
ouais.
C'est qu'on avait parlé, je pense, avec Mimi à l'époque, de sujets de masculinité. Toi, t'étais en train d'avancer sur ces sujets-là à l'époque. Et en fait... Bah c'est d'ailleurs grâce à toi que, je sais pas si tu le sais, mais que quand on a eu cette discussion, tu as dit, en fait, moi, s'il n'y a qu'une meuf en face de moi, Mimi,
ouais.
Alors que tu la connais bien en plus, enfin, tu la connaissais
ouais, en plus,
bien,
ouais.
Tu avais déjà discuté avec elle et tout, mais tu lui avais dit, s'il n'y a qu'une meuf, en fait, ça ne va pas marcher, je ne veux pas te parler comme je voudrais parler, et donc, il faudrait au moins qu'il y ait un mec, tu vois. Et donc, on avait fini par monter ce duo, mais en fait, c'est grâce
c'est
à
marrant.
Toi. C'est grâce à toi.
J'ai beaucoup d'influence.
Bah oui.
Tu sais, je suis dans l'ombre. Je suis dans l'ombre. L'influence se répand.
Et donc, en fait, à l'époque, on t'avait proposé de venir parler dans ouais. le micro et t'avais pas accepté. Mm. En tout cas, t'avais préféré dire no.
Mm.
En revanche, t'étais tout à fait prêt à faire un témoignage écrit, en fait.
Ouais.
Qu'on avait publié sur Mademoiselle.
Mm.
Déjà, est-ce qu'on peut... te présenter un petit peu avant d'aller plus loin.
Bien sûr.
Tu t'appelles donc Olivier ?
Je m'appelle Olivier, je suis éditeur dans la vie, je travaille dans une maison qui s'appelle Albin Michel et je viens tout juste en juillet d'avoir 40 ans.
Quel bel âge.
Quel bel âge, ouais. En fait, ouais. Quel bel âge, moi je suis assez content.
Le milieu de vie.
C'est, ouais, bah j'espère, touchons du bois. Mais voilà, que te dire de plus
okay. Est-ce que tu peux resituer un petit peu pourquoi à l'époque t'avais pas voulu venir parler dans le micro et que t'avais préféré passer à l'écrit? Mais malgré tout, t'avais quand même envie de parler de masculinité.
Bah, parce que c'est un sujet qui m'intéresse maintenant. Je me sentais absolument pas prêt... comment dire, en fait je me sentais pas prêt à arriver devant un micro, à devoir faire des réponses. Mimi allait me poser une question, fallait que je te file la réponse et tac tac tac. Je suis plutôt quelqu'un, bah d'ailleurs mon métier pour le coup le monde, je suis plutôt quelqu'un de l'écrit et je voulais pouvoir un peu réfléchir à ce que j'allais dire, même si on s'était vu avec Mimi pour faire cet entretien, je voulais pouvoir relire aussi tout ça. Et puis, surtout, je pense que... je ne sais pas quand est-ce que c'était. C'était il y a quoi? Il y a 3 ans, 4
3 ans, ans 3, 3 ans et demi, ouais.
Alors, tu vois, je pensais que c'était plus.
Peut-être 4 ans. Hein,
peut-être 4 ans, mais je pense que là, dans ces 4 ans, j'ai aussi... beaucoup avancé personnellement et que je trouve qu'aujourd'hui, alors je sais pas pourquoi aujourd'hui, certainement parce que ça devient un sujet peut-être plus important pour moi, tu vois, je me dis, bah, c'est le moment d'en parler. Voilà.
Ok.
C'est le moment de prendre le micro.
Alors, je te suis sur Insta.
Ouais.
Et je vois que de plus en plus, tu postes des trucs sur la masculinité et tout.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, ok, camarade. It's time.
It's time. Oui, effectivement, c'était le moment. Ouais, totalement.
Okay.
Je suis hyper content de... Quelque part, je suis content de faire, tu vois, ce podcast aujourd'hui, justement avec tout cet historique, parce que je voulais pas non plus... je crois que je te l'ai dit plusieurs fois, parce que tu me l'as reproposé ensuite, et
ouais.
Je t'ai encore dit non. Je voulais pas te faire des réponses, tu vois, d'homme politique. Je voulais pas... Je sais pas si j'y arriverais, tu vois, mais je voulais essayer de te dire les choses de la façon la plus sincère possible. Et si je me sentais pas prêt à le dire, si je me sentais pas prêt à parler de ma bite, parce qu'on y passe tous au bout d'un moment dans ce podcast, j'ai l'impression. Non, mais si, tu vois, si je me sentais pas d'être honnête, si c'était juste pour te dire des... pour te balancer un discours, ça m'intéressait pas. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que, selon toi, venir parler de masculinité dans un micro, c'est forcément avoir un discours d'homme politique, comme tu dis? C'est-à-dire, j'entends derrière, quand tu dis d'homme politique, c'est plutôt avoir de la langue de bois. Enfin, avoir
ouais,
forme de
d'avoir un
de bois.
Discours de mec woke, mais qu'il ne le serait pas vraiment, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est... Pardon, je t'ai coupé.
Non, vas-y.
Non, c'était ça. Parce que je crois que, tu vois, ce podcast va se retrouver en ligne, que, a priori...
C'est le concept.
C'est l'idée. C'est ce truc internet dont vous parlez entre vous. Il va se retrouver en ligne. S'il se retrouve en ligne, il se retrouve de façon publique. Et donc, si c'est une parole publique, elle a... Bon, elle a pas trop de poids non plus, c'est la mienne. Hein. Tu vois, mon influence, à part sur le Boys Club, est quand même assez, assez limitée. Mais je voulais pas dire n'importe quoi. Je voulais pas dire des choses qu'on aurait pu me reprocher. Alors, peut-être qu'elles étaient juste pas déconstruites en moi. Je voulais prendre le temps de trouver mes réponses et de pas me trouver acculé par une question et dire un truc comme ça, tu vois, où j'allais me dire oui, machin, et dire un truc, et on allait me dire ah, tu penses ça, et bah ouais, mais peut-être que demain je penserai différemment, tu vois, c'est évolutif.
Okay. Oui, parce que j'allais te dire, peut-être qu'en fait, ce que tu vas dire là aujourd'hui, dans
bien
trois
sûr.
Ans, tu te réécouteras en disant, ouais, quelle andouille j'étais limité par tellement de trucs, parce qu'en fait, c'est que ça.
Andouille, je n'espère pas à ce point-là, mais il est fort possible que dans le mec, non, je sais pas dans 10 ans, mais le mec d'il y a 10 ans n'aurait jamais dit ça, le mec d'il y a 20 ans n'aurait jamais dit ça. Je suis un mec de 40 ans, tu vois, t'as reçu Cyrus.
Ouais.
On n'a forcément pas, la semaine dernière, on n'a forcément pas les mêmes réponses, la même vision. Et c'est cool.
Carrément.
Mais c'est juste des âges de la vie, quoi.
Mais t'avais... Je pense aussi que... Et c'est Cyrus qui en parlait dans son podcast, dans son épisode, de façon très ouverte, en fait. Il y a une forme aussi, de, comme il disait, de terreur, et que c'était hyper politique aujourd'hui de parler de masculinité, de parler de qui t'étais en tant que mec. J'imagine que t'as écouté l'épisode.
Ouais.
C'était ça aussi, tu penses, qui te freinait un peu?
Tu penses qu'il le disait dans... J'ai pas bien compris, il le disait dans quel sens?
Je pense qu'il disait ça dans le sens où bah, il mettait un peu sa tête sur un échafaud, quoi, tu vois, sur le bio, en se disant « Ok, peut-être je vais dire des conneries, alors qu'en fait, y a pas de... enfin, je pense pas qu'il y ait de conneries à dire, il y a juste à parler de la façon dont tu vis les choses et à dire les trucs. » Et tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu dis un truc de travers en tant que mec, peut-être on va te tirer dessus d'une manière ou d'une autre, quoi, tu vois. Non, c'est pas ça qui...
Si, c'est fort possible.
Ok.
Et d'ailleurs, on le voit, hein, y a plein de mecs qui se font défoncer parce qu'à un moment, ils vont sortir un truc. Après, l'idée, tu vois, je viens ici à ce micro avec... Je viens pas avec des vérités, je viens avec ce qui est une vérité pour moi aujourd'hui. Et certainement qu'elle est discutable, encore une fois. Il y a 5 ans, tu vois, j'aurais jamais pu raconter tout ce que je vais peut-être raconter aujourd'hui. L'important, c'est de se sentir à l'aise, de dire que je peux me tromper, que voilà. Mais en tout cas, que je pense que la discussion, elle doit exister. Et puis, ça reste une discussion. Et puis, je reste personne, tu vois. Donc, bon.
Ok. Merci en tout cas de dire tout ça. On va reparler un petit peu après de Victor, si tu veux bien. de ce fameux témoignage. Donc, je remettrai le lien dans les notes du podcast, parce que ça peut être aussi intéressant pour les gens d'aller relire ce que tu racontais il y a effectivement 3-4 ans.
Ça, je devrais regarder ça, ouais.
Tu t'en souviens plus trop? Ok.
Non.
Mais avant ça, j'aimerais bien te poser la question classique désormais. C'est quoi pour toi être un mec?
Effectivement. tu vois, ça, c'est typiquement une question auquel j'ai écouté, tu vois, plusieurs boys clubs. Et je me disais, ouais, content de pas être le mec au micro. Hein. Bonne chance, mon pote. Tu vois, j'étais assez content de ça. Et je voulais pas venir, tu vois, au micro et te dire, non, mais je pense que c'est aujourd'hui être à l'écoute, machin. Aussi. Je voulais essayer de trouver, tu vois, je voulais à un moment avoir une réponse qui me correspondre moi, qui soit pas forcément, encore une fois, j'ai pas de vérité absolue.
Non,
mais
tu n'as pas la masculinité infuse.
Non, en effet. Mais en revanche, en sortant de ce confinement, justement, il y a un truc qui a popé dans ma tête et je me suis dit, alors je pense pas à ton émission tout le temps, j'y pensais par rapport à moi, mais je me suis dit, mais en fait, oui, tiens, ça, c'est vraiment ce qui, pour moi, est ce qui est être un homme pour moi. Et je crois qu'en fait, moi, ça a été de résoudre une équation à deux inconnues. C'était d'un côté, quel homme je peux être par rapport au milieu où je suis né. J'ai grandi dans une famille portugaise, immigrée portugaise. Du coup, moi, je suis la deuxième génération. Quel homme je peux être par rapport à l'image, tu vois, de l'homme latin, du portugais tel qu'on l'imagine, et puis comment je peux en fait être, ça c'était le premier grand écart, et le deuxième grand écart, c'est comment je peux aujourd'hui être moi-même, faire le métier que je fais, avoir les goûts que j'ai, par rapport à ce qui est socialement accepté quand on fait partie de ma famille. Et résoudre en fait ces deux équations, et c'est pour ça que je pense que si on se reparlait encore, j'espère qu'on se reparlera dans 3 ans, je pense que la réponse sera encore différente, parce que je le détricoterai tout le temps, ça. Et je pense que ma masculinité, elle se trouve à la rencontre de ces deux grands écarts, quoi. Et comment dire, en fait, j'y ai pensé en me disant qu'être un mec, c'était être un mec pour soi, tu vois, et pas pour les autres. Et moi, j'ai beaucoup été un homme pour les autres. Tu vois, j'ai beaucoup dit, je sais pas, il faut que je sache faire ça. Le « il faut », tu vois, chez moi, ouais, est un détecteur de trucs qu'il faut surtout pas faire, justement, en général. Mais il faut que je sois tel homme, il faut que je parle de telle façon, je me comporte de telle façon, j'aime telle chose, il faut que... Voilà, j'avais beaucoup de « il faut que », et à partir du moment où je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ne me concernent pas, en fait, là-dedans, et de trouver ce qui me correspond, même si parfois c'était décalé, et ça l'est quand même souvent, par rapport aux deux trucs que je t'ai cités, bah, je me sens beaucoup mieux, quoi. Et la preuve, je peux venir ici, tu vois, pour en parler dans le micro.
Tu parles de cette fameuse... famille portugaise. Est-ce que tu peux un peu plus planter le décor, parce que bon, on en a déjà parlé toi et moi, hein, c'est pas voilà, je vois à peu près là où tu veux aller, mais j'aimerais bien que tu en parles par rapport à qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2020 d'être un gars de 40 ans qui vient d'une famille d'immigrés portugais en France.
Alors c'est je peux te dire ce que c'est que de venir de ma famille à moi. Pas, parce que, bon, être portugais, ça veut dire beaucoup de choses, surtout à partir de la deuxième génération. Parce qu'on est, pour le coup, on est une communauté d'immigrés qui, même si elle a été nombreuse en France, on a la chance d'être mieux accepté, tu vois. Enfin, il y a un petit revers de la médaille, parce que... enfin, bref, c'est pas le sujet. J'allais parler d'autre chose, j'allais partir un peu trop loin pour un podcast sur la masculinité. Donc on est plutôt accepté en fait, donc déjà ça c'est plutôt un avantage. D'où je viens, donc mes deux parents sont portugais et ils sont en tout cas pour mon père, il travaillait pour la Compagnie Générale des Eaux, Donc plutôt il conduisait des gros engins. Donc il était sur les chantiers, donc il n'était pas maçon comme on l'imagine, tu vois, dans le cliché portugais, mais son père en tout cas l'était, lui. Et ma mère était comptable, et en fait c'est déjà un élément d'explication sur ma trajectoire, c'est-à-dire que ma mère c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, peureuse mais ambitieuse. Et en fait, elle a toujours eu ce truc de vouloir nous tirer vers le haut, nous pousser pour des études, nous amener à en fait aller regarder un petit peu plus loin, a priori. Et en fait, je suis passé moi du. Elle nous a aidé en fait à passer d'une famille ouvrière, parce que mes grands-parents étaient faisaient partie du milieu ouvrier, à une famille de classe moyenne. Elle nous a permis d'aller à la fac, elle nous a permis en fait de devenir un petit peu qui on était, en tout cas d'avoir cette ambition-là. Et c'est vrai que par rapport à mes cousins, par exemple, on a une trajectoire extrêmement différente, moi et ma sœur.
Ok. T'as beaucoup parlé de ta maman.
Ouais.
Et par rapport à l'influence de ton père sur toi.
Justement, elle est. Mon père, c'est très compliqué parce que c'est. Alors c'est un grand absent, ça ne dit pas, on peut s'imaginer que mon père était jamais à la maison ou machin, en fait mon père il a toujours été là, moi j'ai vraiment jamais eu ce problème. Par contre mon père c'était quelqu'un de très effacé, c'est-à-dire que il a toujours été là pour moi, il m'emmenait au sport avec mes potes, tu vois, on allait à la piscine ensemble, mais mon père il parlait pas, tu vois, en tout cas, il parlait pas. On ne se parlait pas au sens de vraies discussions, tu vois. Et truc qui a été quand même un grand fossé, on va dire, dans ma vie, c'est qu'il est mort quand j'étais pas jeune, mais j'avais 25 ans, tu vois.
C'est jeune.
Oui, c'est jeune, mais je voulais pas que les gens pensent qu'il était mort. J'avais 3 ans, tu vois. Ça aurait pas été le même délire. Donc j'étais déjà adulte, mais j'avais pas cet âge où, tu vois, j'aurais bien voulu avoir d'autres discussions avec lui. Et donc je me retrouve aujourd'hui avec beaucoup de questions, mais pour les réponses, je me débrouille un petit peu, quoi.
Ok. Comment tu fais alors, si tu te débrouilles ?
C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est le premier grand déclic. Mon père, il est décédé en 2005. C'est que j'ai fait un burn-out en 2011.
Ok.
11, je pense. Donc je suis allé voir un psy et c'était la première fois. Et bon, dès la première séance, je dis oh là là, mon employeur, quelle vilaine personne. Je dis pas de gros mots dans le micro. Bon, je les pense, donc je pourrais y aller, mais parce que c'était pas des gens très cool. Et elle me dit oui, très bien. Bon, parlez-moi de votre père et de votre mère. On va arrêter de. Bon, elle m'a bien sûr pas dit comme ça parce que ça aurait été difficile. Mais en tout cas, on a très vite parlé de ça. Et peut-être 6-7 mois. Après que j'ai commencé à la voir, j'étais retourné au boulot, j'avais changé de boulot d'ailleurs, et tout allait beaucoup mieux. Un jour, je parle avec elle et elle me dit « Je vous ressemblais peut-être plus à votre père que vous ne le pensez. » Et cette phrase-là, elle ne veut rien dire pour toi, elle ne va rien déclencher de particulier. Mais moi, tout s'est aligné dans ma tête et... Et ça m'a fait un truc physique. J'avais vraiment l'impression, tu sais, d'avoir une espèce d'armure, que j'avais des crampes partout dans le corps.
Ça m'a déjà fait ça.
Ça t'a déjà fait ça?
Ouais, quand tu te sens vraiment, t'entends un truc ou tu réalises un truc et que tu sens que, oh, ok, c'est bon, tu vois à peu près comment ça marche. Tout est clair d'un coup, c'est ça?
Tout est clair, mais c'était extrêmement violent. C'était très violent et je me souviens que... Alors c'est marrant et peut-être pas le mot, mais le cabinet de ma thérapeute était à 10 minutes à pied du cimetière où est enterré mon père. Donc j'y suis allé, j'y suis resté 2 heures, j'ai parlé tout seul, tu sais, comme un mec possédé. Je pense qu'on m'a bien pris pour les gens qui sont passés, on a dû se dire « Ok, compliqué !» Et je suis ressorti de là.
T'as besoin d'avoir une discussion avec ton père à ce moment-là ?
Je ne sais plus, pourtant tu vois, je ne suis pas venu pour ne pas dire les choses pour le coup, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai raconté.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos-séries, des recos-ciné, des recos-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Par contre, j'ai chialé, ça je peux te le dire que pour le coup, là les vannes étaient ouvertes. Et fun fact numéro 2, le cimetière est à 10 minutes du bureau de ma mère. Donc je suis allé après la voir et je lui ai dit qu'elle m'avait fait du mal, en fait. Alors imaginez pas des trucs fous, hein, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, c'était la première fois que... c'est plus de l'ordre de l'étouffement. Ma mère, c'est toujours... parce que quand j'étais petit, j'avais des problèmes respiratoires assez graves qui ont depuis totalement disparu. Donc je ne sais pas pourquoi. Et du coup, elle a gardé cette image de moi comme d'un petit garçon fragile. Tu sais qu'il fallait toujours protéger.
Ouais.
Et même si ce n'est pas un geste très radiophonique, quand elle parlait, elle ne le fait plus. Mais quand elle parlait de moi, elle faisait ce geste avec les deux mains qui se rapprochent du ventre.
Ok.
Ce qui est, comme je lui avais dit, ça c'est la seule chose que je me souviens de ce jour-là, c'est que je lui ai dit, si tu continues à 35 ans à me traiter encore comme quand j'étais un enfant, on va pas pouvoir avoir une relation d'adulte en fait, tous les deux. Et ça a été la première de beaucoup de discussions.
Oui.
Et en fait, comment je me débrouille, parce que je n'ai pas oublié ta question de base, bah... En fait, j'essaye de détricoter tout ça. Je pense aujourd'hui trouver une bonne distance avec ma mère. J'ai évolué là-dessus, on s'entend beaucoup mieux. Avec mon père, bah, j'ai accepté que de toute façon, j'allais devoir me débrouiller sans. Donc, bon, c'est la vie. Et puis pour le reste, c'est surtout que quelque part, maintenant, c'était il y a 15 ans, tu vois, et puis c'était quelqu'un, mon père, c'est donc de 0 à 25 ans, donc je suis loin, tu vois, de cette personne aussi maintenant. Donc j'essaie de me tourner plus vers, enfin d'ailleurs je me tourne pas, je regarde surtout aujourd'hui, tu vois, maintenant. Ouais. Et voilà, je vois beaucoup moins, mais je vois toujours de temps en temps un psy quand j'ai un truc où je me dis... Tiens, j'arrive pas, tu vois, machin. Et puis, mon truc aujourd'hui, c'est plus d'essayer de me bagarrer pour être vraiment, justement, pour faire ce fameux grand écart, c'est-à-dire être vraiment moi-même, tout en, tu vois, sans dire, bah écoute, je suis ça, donc ma famille n'existe plus, ou ouais. Je suis tel homme et les Portugais, c'est tous des cons, tu vois. En fait, non. C'est un grand écart que j'aurai tout le temps, donc j'essaye de le faire sans, tu vois, me péter les ischios aujourd'hui.
Ouais.
entre.
Je voudrais qu'on repasse, parce que t'as dit tellement de trucs, c'est très dense là ce que tu viens de me raconter. Non mais en fait j'ai pas envie de te couper non plus, donc je rebondissais pas automatiquement, mais on va reparler juste après de ce que c'est que la culture portugaise, tu vois, en tant que mec.
Ouais,
tu vois.
J'ai oublié ce petit détail.
Oui, parce que je pense que c'est hyper important que tu viennes le remettre dans le contexte. Mais alors peut-être qu'il faut peut-être le faire de cette là. Avant, la question que je vais te poser, c'est... et sans vouloir rentrer dans les détails de ta vie privée, etc. Mais qu'est-ce qui fait que quand cette psy te sort cette phrase « Vous ressemblez sans doute plus à votre père que ce que vous pensez », il y a un moment donné où ça s'aligne en toi.
Alors, donc, je réponds juste avant à « C'est quoi être un mec portugais ?»
Ouais. C'est mieux, je pense, hein, dans ce sens-là.
Ouais, effectivement. C'est un peu compliqué comme question parce que, encore une fois, j'ai vraiment du mal avec les généralités. Plus j'avance, plus je kiffe la nuance.
Ouais,
tu vois.
Mais toi, parce qu'en fait.
Pour moi, ce que je ressens, c'est que.
Comment tu l'as vécu, toi?
En fait, je vais être du coup schématique, ça donnerait une idée plus simple. Le portugais, on va dire, c'est déjà quelqu'un qui est plutôt doué de ses mains. Tu vois, c'est dans ma famille, en tout cas, j'ai des menuisiers, j'ai des gens qui construisent des maisons. Enfin, tu vois, le jour où j'ai acheté un appartement, j'ai eu une aide, tu vois, de tous les corps de métier possibles. C'est des gens qui sont hyper forts là-dedans, en fait. Et, Et du coup, c'est une façon aussi d'avoir... être un mec, c'est aussi savoir monter sa maison. C'est un peu cliché dit comme ça, mais tu vois, c'est pouvoir prendre ces choses-là en main. C'est être un peu dur au mal aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'on se plaint pas. En plus, moi, j'ai beaucoup entendu que on était des immigrés, donc on se tait, tu vois, on parle pas. C'est puis après, c'est aussi avoir des goûts qui sont des goûts qui aujourd'hui sont un peu plus décalés avec moi, mais tu vois, faut avoir une voiture, mais ça, c'est pas juste portugais, tu vois, c'est aussi un truc de c'est pas que être un portugais, mais fallait avoir une belle voiture, fallait aimer ça, des trucs qui moi m'ennuient, tu vois, ces discussions là j'ai rien à dire là-dessus. Faut aimer le foot. Ça, par contre, je peux. Ça, je peux causer de Cristiano Ronaldo. Combien de buts cette saison ? Ouais, mais quand même. Cette année était moins bien, bref. Ça, je peux. Non, c'est d'ailleurs en fait, tu un dis des ça... ponts.
Ouais, c'est ça, mais tu dis ça, mais c'est des vraies discussions. C'est-à-dire que c'est des vraies discussions qui font partie, qui créent du lien, justement. C'est ça ?
Dans la famille, bien sûr. Mmh. Bien sûr, Cristiano Ronaldo, dans ma famille, c'est le ciment. Tu vois, je suis allé voir ma mère cet été, ma tante était là, et moi j'étais en train de dire, ouais mais quand même Messi, tu vas pas me dire machin, et mon cousin me dit, alors attention, parce que ta tante, on ne touche pas à Cristiano Ronaldo, tu vois, on est là.
Ok.
Enfin bref, voilà, c'est autant de choses qui sont assez décalées avec moi. Moi je suis pas quelqu'un de... Enfin, si tu comptes sur moi pour construire ta maison, prévois quelqu'un d'autre, tu vois, ou alors attends-toi à avoir quelques retouches derrière à faire. J'aime bien le foot, mais je suis pas un mec, tu vois, doué de mes mains. Je suis. Et ce qui est drôle, c'est que dans ma famille, c'est pas qu'il y a des mecs qui sont pas sensibles ou que c'est tous, tu vois, des gros bonhommes. Il y a des mecs en fait hyper sensibles dans ma famille, mais c'est pas un trait de caractère qui va être valorisé. C'est pas le truc que tu mets en avant. Par contre, il y en a. Et justement, je boucle avec ta question avec le psy, tu vois. Je suis un bon élève.
Juste pour terminer, avant, il y a un autre truc aussi qui me fascinait dans ce que tu me racontais, c'est que tu racontais que dès que tu visitais une maison, tu vois, tous tes cousins, tes oncles, machin, ils se sentent obligés de checker
faut taper dans les murs, tu vas dire, ouais, ça je l'avais dit à minuit, ça c'est du placo, ça, ouais, ça attend, ouais, une colonne de douce, ça. Bon, je sais pas ce qu'est une colonne de douce. Non, mais c'est important, tu vois. Je me souviens d'avoir visité avec mes oncles, je sais plus ce qu'on foutait là d'ailleurs, une espèce de maison. Et donc, il y a un de mes cousins qui avait pris, alors là, c'est pas du tout un radiophonique, mais tu sais, qui s'était posé un peu comme ça, la jambe.
La jambe en l'air.
La jambe en l'air, posée sur un banc, tout ça. Un peu, tu vois, manspreadant. Et il dit, tu vois, les poutres là-haut, tu vois comment ça a été monté, tout ça. Alors bon, bien sûr, moi, je voyais pas, tu vois, qu'est-ce que je pensais. Je suis jamais intéressé à la question. Et il le savait, je pense. Il me dit, ouais, voilà, parce que c'est comme ça se monte comme ça. Et puis, tu vois, il y a un plaisir et une fierté. C'est pour ça que je le critique pas. Parce qu'il y a un plaisir et une fierté à savoir comment tout ça fonctionne. Et le truc, c'est que si c'est pas ton délire.
Ce qui est pas le tien, pour le coup.
Ce qui est, on l'aura deviné, pas le mien. Et bah, comment t'existes là-dedans, en fait ? C'est chaud. Et c'est pas comme si j'avais le luxe d'avoir dans ma famille des gens qui étaient en plus cons, tu vois, que j'allais pouvoir dire, oh là là, mais quelle famille de merde. Pff, j'ai que des gens que j'adore, tu vois, que j'aime profondément. Mais ce qui a été dur pour moi, c'est de jamais réussir à connecter avec eux et au bout d'un moment de croire que, en fait, j'étais pas comme il fallait, quoi que ça veuille dire. Et quand ma psy me dit que je ressemble plus à mon père que je ne le pense, je me suis beaucoup identifié adolescent, jeune, je sais plus trop, à ma mère. Et en fait, c'est effectivement plus à mon père que je ressemble. Mon père, c'était un mec qui dessinait, déjà. Truc très chelou. Très très chelou, tu vois, dans la famille. Tu vois, non, bien sûr, le mec qui travaille avec des dessinateurs, tu sais, je vous juge à chaque fois. Dans ma famille, tu vois, que mon père dessine, c'est bizarre, tu vois, ça rentrait pas vraiment dans les trucs.
Et il, comment dire, il était perçu comment de ce fait-là au sein de la famille ?
Bah, ça se voyait pas. Moi, je le sais parce que j'ai passé du temps avec lui. Donc, je le voyais en vacances. Et tu vois, il faisait ses trucs. Il grattait un petit peu, tu vois, quand on le regardait pas, machin. Mais c'était pas ça. Mon père, il bricolait. Tu vois, il bricolait. Il avait acquis la carte. Tu vois, il conduisait des engins, machin. Donc, il avait la carte du club, en fait. Mm. C'est juste qu'il était plus que ça. Et moi, c'est ce côté-là où bah, je lui ressemble beaucoup.
Ok. Merci pour cet éclairage. Est-ce que tu as la sensation d'avoir joué à un moment donné, en tout cas tenté de rentrer dans ce club, comme tu dis, d'avoir mis un masque où tu te disais, bon, bah, je peux peut-être faire illusion.
Mais j'ai essayé tant que j'ai pu, mon bon Fabrice. Bah,
je me suis donné. Moi, c'est une question que je te pose.
Je me suis donné, mon pauvre Fabrice.
Qu'est-ce que tu as fait pour ça
En fait, ce qui est. J'ai pas fait grand-chose, mais je l'ai plus vécu comme une culpabilité, ça. Là où j'ai réussi, en fait, moi, ce qui m'a permis de m'en sortir. Encore une fois, c'était pas le bagne, hein, mais ce qui m'a permis, en fait, de... comment dire ?
Hiring for your small business ? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je sais pas comment le formuler, qu'au niveau de... En fait, d'affirmer une forme de masculinité qui était positive par rapport à ma famille. Voilà, on peut le dire comme ça. Ça a été le sport.
Ouais. T'as fait du handball ?
Alors déjà, j'ai commencé par acquérir ma carte de respectabilité aussi. J'ai fait 6 ans de foot. J'ai commencé le foot à 5 ans. J'en ai fait 6 ans, j'étais pas très bon. Et un jour, je fais du handball à l'école et je suis hyper bon. Et j'en ai fait ensuite 25 ans. Derrière, et c'était pas un sport où, tu vois, ça rentrait pas dans le canon, même si les Portugais ont une bonne équipe de handball.
Ok. Moins bonne que la France, si je puis me permettre. Mais bon.
Et figure-toi qu'ils nous ont battus.
Alors, quand tu dis « ils nous ont »,
les Portugais. Eh oui.
Ok.
Fin de la parenthèse. Et en fait, le fait d'être le handball, c'est quand même un sport où on se rentre bien dedans.
Tu sais pourquoi je te disais « ils nous ont » ?
Non.
Et que je te disais pourquoi, qui tu dis ils nous ont, parce que c'est cette double culture dont tu me parlais aussi.
Bah on peut en parler après.
Quand il y a France-Portugal.
Alors là, on peut parler de la finale de l'Euro 2016, le pire jour de ma vie. Ça, oui, on peut en parler. Ouais.
On en parlera
plus
tard.
On en parlera plus tard. Quand on en sera aux larmes. Bref, et donc c'est un sport où on se rentre dedans, le hand, c'est un sport où en plus j'étais bon. J'étais pas bon, tu vois, j'aurais jamais pu... On m'avait proposé de jouer à plus haut niveau, mais ma mère m'avait dit « t'es nul en maths, donc t'iras pas ». Le lien n'est pas évident, mais c'est comme ça. J'étais bon et du coup, j'étais reconnu pour ça. Mm. Et en fait, quelque part, on se disait « ah oui, bon, quand même, tu vois ». Peu de gens qui, mon cousin, tu vois, est venu me voir jouer plusieurs fois, bon, bah du coup, ok. Tu vois, Olivier, il fait du sport. Il y a des gens qui l'applaudissent dans la tribune quand il joue. Il y a machin. Donc, bon, ok, il lit. C'est un peu chelou. Mais bon, voilà.
Ok.
On peut en faire quelque chose, tu vois. Voilà, ça a été ma carte du club.
D'accord. Tu veux qu'on parle de France-Portugal ? Parce que c'est un truc qui m'a marqué aussi quand tu m'as parlé de cette fameuse finale et que tu avais... plus que jamais le cul entre deux chaises, j'ai l'impression.
Mais j'ai pas le cul entre deux chaises, c'est ça le problème. Tout le monde veut me mettre le cul entre deux chaises, qui n'existe pas. je suis vraiment le cul sur une chaise et bien assis, laisse-moi te le dire. C'est un des sujets, pour le coup, qui me différencie de ma famille. C'est que le soir de l'Euro 2016, je suis chez un pote, et plusieurs, comme ça, on regarde la finale. Le maillot que j'ai sur l'épaule, c'est Griezmann, hein. c'est Griezmann, une étoile à l'époque, tu vois. On n'avait pas encore eu la deuxième. Moi, en fait, si tu veux, ce qui fait aussi ma différence, c'est que quand la plupart de mes cousins, en fait, passaient tous leurs étés au Portugal. Moi, j'y suis allé deux fois. Avant mes 18 ans, j'y suis allé, j'avais 2 et 13 ans. Donc, autant dire que la première fois, je ne m'en souviens pas trop. Et du coup, en fait, moi, ma culture, qui je suis, tu vois, dans ma famille, une fois, ma cousine a dit « Oui, mais toi, t'es le français, toi. » Et moi, je suis... Et j'ai envie de dire « Bah ouais, mais tu vois, j'ai grandi là, moi. J'ai grandi là, et on me demande, en fait, d'avoir une culture d'un pays où je suis jamais allé. Et certes, c'est mes racines, certes, tu vois, j'ai fait peu d'efforts pour apprendre la langue, mais j'arrivais, tu vois, avec ma grand-mère à regarder Juste Prix, tu vois, à comprendre un peu ce qu'elle me disait, c'est plus cher, c'est moins cher, tout ça. Mais c'était pas ma culture. Du coup, le soir de la finale, moi, je suis pour la France, quoi. Et quand, bon, tu sais que j'ai jamais pu revoir ce match, hein, j'ai pas regardé d'image, quand il arrive ce que tout le monde sait.
Bah, alors, pour les gens qui connaissent pas le foot,
bah, mettez-vous à la page.
Le mec ne veut pas en parler, quoi.
Voilà, bon, quand, le Portugal bat la France, quoi.
Voilà, Portugal 1-0. Bat la France, voilà. J'ai alors, première lame. J'ai toute la famille qui m'appelle en mode ah tata dans ta gueule machin.
Ah ouais.
Et d'ailleurs à mon anniversaire avant, c'est la seule fois où tu me verras avec un maillot du Portugal. Ils m'ont dit bon allez pour tes 36 ans tu mets le maillot. Bon j'étais loin de Paris. Je me suis dit faut que je sacrifie tu vois la coutume. Non bon tu vois et donc j'ai ce premier truc où ils me disent ah là là tata tu vois mais pas méchamment hein, tu vois mais bon bah il était très clair que je n'avais pas gagné. Et j'ai répondu, je crois, à mon cousin, et puis après, j'ai fermé le téléphone. Je suis allé pleurer dans les rues de Paris. Et le lendemain, en arrivant au boulot, on m'a dit bon, Olivier, quand même un peu gagné. Hier, dis donc, certes, machin, mais t'as une demi-étoile quand même. Et non, en fait, j'aimerais te dire oui, ce serait plus simple pour moi de te dire oui. Enfin, toi, tu t'en fous, mais ce serait plus simple, tu vois, de dire que oui, j'étais content, que oui, je soutiens l'équipe, mais je le sens pas, tu vois, c'est vraiment pas mon pays. Moi, mon pays, ma langue, alors j'espère que ça fait pas rassemblement national, mais mon pays, la France, c'est là où j'ai grandi, c'est, tu vois, c'est la France, donc...
Ça fait pas rassemblement national.
Bah oui, non mais tu vois, et l'équipe de France de handball, tu vois, c'est la plus belle aventure sportive que j'ai eu la chance de vivre, tu vois. Enfin bref, voilà.
En tout cas, merci beaucoup de planter le décor, en fait, parce que vraiment, on comprend un peu mieux d'où tu viens, de cette fameuse culture, de comment t'as pu faire, toi, de ce que tu racontais au tout départ, tu vois, de ce grand écart entre d'où tu viens, le mec que t'as envie d'être. On peut reparler un peu de Victor. En fait, dans ce fameux article, on parle du mal alpha. Enfin, en tout cas, tu parles avec Mimi du mal alpha. Tu dis dedans, la virilité, ce sont des idées préconçues censées définir ce qu'est, entre guillemets, un vrai mec. J'ai grandi avec des modèles comme Rocky et Rambo, des surmecs, survirils. Et je ne me reconnaissais pas entre eux. Je ne trouvais pas ma place. Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui ? Est-ce que tu veux développer ?
En fait, ce qui est drôle, c'est que... Rambo, Terminator, tous ces...
Schwarzenegger, donc. Stallone.
Ouais. Tous ces... Ouais, enfin, oui, les personnages et les acteurs, ouais. Ce qu'ils incarnaient. En fait, je dis que je me reconnais pas dedans, mais j'ai dû voir 35 fois Terminator. Tu sais,
ah ouais.
Bah, c'était l'époque où t'avais pas 10 000 cassettes. Il y avait pas YouTube.
Ah bah ça, ma petite dame. Il y avait pas Netflix.
C'était pas Netflix à l'époque. Donc le peu de cassettes que j'avais, je les ai saignées. Et en même temps, quelque part, tu vois, ça a bien fini par me rentrer dans le crâne, j'imagine, d'une certaine façon. Hein. Je pense que ça nous envoie des messages qui... qu'on le veuille ou non, en fait, finissent par rentrer. C'était Mimi, d'ailleurs, qui m'avait conseillé... Je sais plus comment il s'appelle, mec. Il a une chaîne YouTube, la Pop Culture Détective, ou je sais pas quoi. Okay. Tu lui demanderas, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, mais...
Je mettrai dans les liens, dans les notes.
Il y a un épisode où, en fait, le mec montre tous les films où un mec enlève une meuf, et cette meuf finit par tomber... amoureuse de lui. Et tu te dis, en fait, on a vu ces trucs, on nous a martelé avec ces trucs, on nous a dit, mais en fait, tu peux l'enlever, tu la rudoies un petit peu, et puis ça va aller, quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça nous a un peu... ça nous est un peu rentré dans la tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si à l'époque je me reconnaissais pas du coup dedans, mais c'est vrai que je m'aperçois, tu vois, là, en l'entendant et en te répondant, qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un gros film d'action justement comme ça, parce que tu vois, j'ai ce truc avec Fibre Tigre, d'ailleurs, j'attends qu'ils fassent leur podcast quête latérale là-dessus, mais sur la violence dans le jeu vidéo, pas au sens où les jeux vidéo créent des tueries de masse, parce que laisse-moi te dire que sinon j'ai regardé, j'ai fait sauter 51 000 têtes sur Counter-Strike, donc autant dire que tu serais en danger, mon pote, mais plus au sens que le héros règle tous ses problèmes en dégommant tout le monde. Quand t'as fini un Red Dead Redemption, mais t'as plombé un nombre de gens incroyable. En fait, tu t'es comporté comme un immonde salaud, tu vois. Et peut-être que c'est pour la justice, mais tu vois, j'ai ce même truc par rapport aux films d'action, aux jeux vidéo d'action. Je trouve que c'est facile d'appuyer sur Call of Duty, tu vois, aussi. Je veux dire, je l'ai tous fait. Moi, j'ai fait toutes les guerres, mon bon Fabrice, en FPS, tu vois. Mais bien sûr, toujours avec la souris, pas avec le paddle.
Oh, le mec.
Ouais, je lance un peu le débat, parce qu'il est temps que ça cesse, les gens qui jouent au FPS avec
moi,
la manette.
Moi, je joue au FPS avec la manette, ne me jugez pas.
Et allez. Voilà. Ça s'arrête là, c'est interdit.
Je suis un joueur de console, moi, monsieur. D'accord. Oui,
ben, tu peux pas être parfait, Fabrice.
Ouais, c'est bien.
Et donc, tu vois, c'est tellement facile, en fait, pour nous, les mecs, d'appuyer sur ce bouton-là. C'est tellement facile de nous dire qu'on va sauver une princesse. C'est tellement facile de nous dire qu'il faut qu'on rase, tu vois, une tranchée ennemie, machin. Et je me dis, tu vois, on a certainement d'autres choses à nous raconter, on a certainement d'autres façons de régler les problèmes. Alors, c'est sûr que discuter ferait un moins bon Red Dead Redemption, mais tu vois, je pense que parfois, on peut avoir un film d'action, on peut avoir, je veux pas passer pour un vieux con, mais on peut avoir un jeu d'action, mais il y a un discours, tu vois, autour de ça. Et je trouve que le discours exalte un truc qui est peut-être pas très sain dans la masculinité, tu vois. C'est quand je vois toutes les marques de jeux vidéo qui souvent prennent des positions maintenant parce qu'il faut, tu vois, nous on est féministes, nous on est machin, mais je dis bah, enfin, on va pas reparler d'Ubisoft aussi, mais ça se voit pas dans vos jeux, en fait, les mecs. En fait, c'est dans tes créas, faut que ça ressorte. Sinon, c'est juste du discours.
Et qu'est-ce que tu dirais au petit Olivier qui avait 15 ans et qui était en train de regarder Terminator pour la 35e fois aujourd'hui ?
Mais continue, enfin.
Ah ouais ?
Mais qu'est-ce que tu voulais que je regarde d'autre à l'époque ? C'est-à-dire que oui, je pourrais te dire aujourd'hui, mon bon ami va lire, tu vois, du Racine, du machin, du truc, mais. En fait, ça existait peut-être, c'est dire mon aveuglement à l'époque, mais j'avais pas grand-chose d'autre dans mon spectre. J'avais les mystérieuses cités d'or, peut-être, éventuellement, j'aimais bien, tu vois, je regardais ça chez ma grand-mère. Mais j'ai l'impression que mon paysage entier, finalement, c'était ça. Après, tu vois, j'ai grandi avec la Master System, la Mega Drive, tu vois, j'ai joué à plein de jeux qui n'étaient pas des jeux violents, tu vois, je suis pas dans cette caricature. À l'époque, j'aimais ça. Tu vois, c'est pas là-dessus que tu vois, je parlerais au petit Olivier là-dessus. Tu sais, je pense que quand t'es ado, tu kiffes ce que tu veux. Si tu kiffes le manga, moi j'ai adoré le manga. Aujourd'hui, je peux plus en lire, mais j'ai 40 ans. Tu vois, le shonen à 40 ans, c'est un peu compliqué. La quête initiatique du héros, bon, ça me parle moins, mais tu vois, kiffe ce que tu. Enfin, si t'aimes le jeu vidéo, joue au jeu vidéo. T'aimes Minecraft, t'aimes Call of Duty, joue, tu vois, et en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y ait pas un discours à côté qui soit sain. C'est plus ça qui m'embête. Donc je lui dirais, continue.
Et tu disais, c'est pas là-dessus que je lui parlerai au petit Olivier. Tu lui parlerais sur quoi alors ? Non, mais je crois pas que tu vas me tendre une perche comme ça sans que je la saisisse pas, mon gars.
Bon,
mon
gars. On prendrait un petit moment parce qu'on aurait quand même 2-3 trucs à se dire. Et j'avoue que je serais curieux aussi dans l'autre sens de lui parler à lui. Parce que, alors ça va peut-être sonner un peu cliché, mais je serais très curieux de voir ce que j'ai perdu de lui, parce que je pense qu'il y a des trucs que j'ai, il y a des trucs parfois, tu vois, où des sensations, des trucs qui reviennent et je me dis putain, ouais, en fait, j'ai eu ça et c'était cool. Et c'est dommage que le fait de devenir adulte m'en ait éloigné.
Comme quoi ?
Des plaisirs, des plaisirs simples, des choses qui me plaisent de faire, mais que j'ai pu arrêter de faire.
Donne-moi des exemples.
Non, mais j'ai pas d'exemple là, okay. Mais si ça me revient, je t'en donnerai. Tu vois. Je n'hésiterai pas. Et non, ce que je lui dirais, c'est plus ce pourquoi je me bats encore aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup plus confiance en lui, de s'affirmer beaucoup plus, de tu vois, je râle beaucoup plus aujourd'hui que je ne râlais avant. Et quand je dis râler, c'est-à-dire j'hésite pas à dire, je dis pas merci quand on me marche sur les pieds. Moi, j'ai été trop gentil, je pense, et j'apprends à moins l'être. Je discutais avec un agent il y a pas longtemps qui me disait, alors c'était un agent dans le milieu du cinéma, et il me disait, moi je crois en la gentillesse, et moi aussi j'y crois, mais il disait aussi, ça n'empêche pas de s'affirmer, etc. Et je suis aussi là-dedans, donc je lui dirais de s'affirmer, tu vois, beaucoup plus, de que tes parents ont pas forcément raison, tu vois, que je pense qu'il y a des conflits positifs à avoir avec ses parents, il y a des engueulades nécessaires à avoir avec ses parents. On dit, couper le cordon, c'est un peu réducteur, mais je pense que ils savent pas forcément ce qui est le mieux pour toi. Ils essayent, font de leur mieux, tu vois, mais ils savent pas toujours. Donc je me bagarrerai plus pour ce qui me plaît, parce que tu vois, j'en parlais avec une amie justement hier. Je lui disais un truc aussi con que le jour où l'entraîneur d'une équipe, c'était à Saint-Mandé, il faisait le championnat de France jeune en handball, a appelé, en fait, il avait demandé mon numéro à un mec que je connaissais pour me proposer, tu vois, il avait appelé chez moi pour me proposer de jouer avec eux. Et donc, ma mère m'avait dit, t'es pas bon en maths, donc t'y vas pas.
Ah, parlons de ça, oui, si tu veux bien.
et tu vois, c'est idiot parce que j'en ai beaucoup voulu pour ça à ma mère, parce que j'ai pas, tu vois, tu m'aurais pas vu à côté de Karabatic, hein. Je suis pas taillé pour ça, évidemment, mais je trouve qu'un gamin de, je devais avoir 12-13 ans à l'époque, tu lui fais vivre ça, tu le laisses vivre ça, tu lui donnes confiance en lui, en fait, parce qu'il va se dire, à un moment, j'ai été suffisamment bon pour qu'on me laisse faire ça. Et ce gamin qui a 12 ans, et truc anecdotique, tu vois, elle s'est dit, oui, comment on va l'emmener tous les jours, tu vois, à Saint-Mandé, qui était, je sais plus, allez, 20 minutes en bagnole, le soir, trois fois par semaine, comment on va faire. Elle a vu ça de façon très logistique. Encore une fois, elle a fait ce qu'elle a pu et ce qu'elle pensait être juste.
Bah oui.
Mais en fait, peut-être que plus tard, ce gamin, sur des moments importants de sa vie, des moments où il a envie de faire un truc qui lui plaît mais il va pas oser parce qu'il se dit qu'il est pas assez bon pour, tu vois, ça imprime une espèce d'empreinte, je trouve, dans l'image que tu te fais de toi à l'intérieur. Et tout mon truc aujourd'hui, je lui dirais, mais en fait, affirme-toi, parce que plus tard, tu seras content du temps que ça t'aura fait gagner. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai 40 balais, mais je suis encore parfois en train de m'affirmer et de me dire, mais si, en fait, tu peux faire ça, et puis tu vas le faire, et tu vas pas t'excuser, tu vois, de le faire, devenir éditeur, tu vois, ça a été un,
ouais, c'est, tu un viens truc pas, où... Tu viens pas de là, hein.
C'est pas ça que je faisais à la base, mais je faisais pas ça parce que j'étais dans le grand écart commercial dans l'édition. C'était un peu ce que j'aimais, l'édition, et c'était un métier que tout le monde pouvait accepter. Commercial, c'est du solide, ça rapporte de l'argent, c'est machin, mais
que
c'était tout le pas
monde
moi
dans ta famille
dans, ouais, dans l'environnement familial allait valoriser. Tu vois, j'ai eu une fois une discussion avec un de mes cousins, et quand je lui expliquais ce que je faisais, il me dit, mais tu fais ça toi? Bah oui, c'est, tu vois, éditeur, c'est un métier, c'est un vrai métier. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que c'est reconnu comme... Enfin, c'est une qualité qu'on me reconnaît. Mon cousin lui m'a filé la lettre qu'il voulait écrire à son père pour ses 70 ans. Et il m'a dit, tu veux pas réécrire pour être sûr que je vais dire vraiment ce que j'ai envie de dire, tu vois. Et ça m'a touché parce que je sais que c'était pas forcément facile pour lui, déjà, de le dire, mais qu'il me fasse confiance pour ça.
De venir te demander de l'aide, tu veux dire ?
Non, parce qu'on est assez proches, c'est le mec, et je lui serais toujours gré de ça, qui, le jour de l'enterrement de mon père, m'a dit, mon sac est dans la voiture, si tu veux que je reste, je reste, si tu veux que je parte, je rentre, tu vois, mais Mais tu vois, ça m'émeut encore, tu vois, de raconter ça. Et pourtant, ça fait 15 ans. Donc non, c'était pas ça. On se connaît suffisamment, mais c'était juste que, tu vois, quelque part, il me reconnaissait cette qualité-là. Et c'était cool.
Elle te vient d'où, là, cette émotion qui monte ? Tu sais, l'émotion est un message, hein, tu es au courant.
C'est que ça reste quand même... c'est quand même un moment, tu vois, difficile. C'est que je suis moins ému, aujourd'hui par la mort de mon père. Mais il n'empêche que j'en parle... En fait, j'y pense moins, j'en parle moins. Tu vois, c'est un deuil que j'ai fait. Mais il n'empêche que comme aujourd'hui, tu vois, j'en parle... comme ça, j'en parle, j'y pense, je me replonge dans ce moment. Il y a un moment, j'arrive, tu vois, un moment où je suis... Il y a une frontière où je suis un peu fragile, tu vois, là-dessus, et voilà.
Est-ce que j'appuie sur cette fragilité ou pas, tu penses ?
Vas-y.
En tant qu'intervieweur.
Non, ça mais... fait du spectacle pour mon Fabrice.
Alors, moi, je fais ça, du buzz sur mon podcast.
Buzz. Il y a des larmes, mon ami.
Non, mais je trouve que, en fait... la mort d'un père est toujours un truc... alors déjà, la mort est compliquée pour tout le monde. Hein. La mort d'une figure paternelle, je pense, d'une manière générale, parce que d'un père, forcément, ou d'une figure paternelle, c'est un vrai truc pour un homme. T'étais déjà un jeune homme, en plus. Tu disais tout à l'heure que à cause de cette mort, justement, il y avait des... Tu peux pas avoir des discussions que tu voudrais avoir aujourd'hui à 40 balais avec ton père. C'est quoi les discussions que tu aimerais avoir avec lui aujourd'hui ?
J'en sais rien, justement.
Ah ouais ?
J'en sais rien. Si, je sais de quoi je voudrais parler, mais je sais pas où elle m'emmènerait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que déjà, j'aurais toute une étape de t'es qui, tu vois ? T'es qui, toi, en fait ? C'est-à-dire, une fois que t'es plus... et enlève deux secondes ta casquette de papa et sois juste, tu vois, Alexandre, moi je vais juste être Olivier et on va se parler, tu vois. Je me souviens qu'on a fait ça une fois, c'était le jour des résultats du bac, tu vois. Il m'avait invité au resto, ma mère elle avait pleuré au téléphone parce qu'elle pensait pas que son délinquant de fils allait avoir son bac. Non, je t'ai pas du tout machin, je dis ça pour plaisanter, pardon maman. Et lui, il m'avait invité, on avait un petit peu parlé, mais un petit peu, donc je lui demanderais déjà qui il est, en fait, je le laisserais plus parler, et puis après, je sais pas où ça m'emmènerait, mais je crois que ce qui me manque le plus, c'est de le connaître. C'est très difficile, en fait, de vivre, grandir, c'est un petit peu... dur parce que c'est pas exactement ça, mais en tout cas de vivre avec une ombre déjà dont au bout d'un moment la silhouette se
fadit,
ouais, c'est ça,
fade away
un peu. Et puis en plus de ça fait peu de choses auxquelles te raccrocher. C'est quelqu'un d'important dans la vie d'un homme, son père, tu vois. C'est quelqu'un avec qui, tu vois, j'arrive aujourd'hui à parler avec ma mère de ce que je fais. Ma mère me parle de ce que je fais, tu vois, on a ce discours maintenant, mais j'aurais envie d'en parler avec mon père. J'aurais envie d'avoir son regard là-dessus, parce qu'il était très différent de ma mère aussi. Et vu que je lui ressemble un peu plus, je pense qu'il y a des fois... où ma mère peut pas me comprendre parce qu'on n'est pas câblé pareil. Et lui, peut-être, pourrait.
Peut-être qu'il pourrait, ouais. Je te pose aussi la question parce que je pense que si on a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'ils provoquent ce genre de discussion, en fait, tu vois, que t'as pas provoqué toi à l'époque parce que bah, y avait pas de podcast dans tes oreilles, quoi. Souvenons-nous. Il n'y avait que la radio, il n'y avait qu'Europe 1 et RTL.
Je vous invite à regarder le film de Rémy Besançon, Ma vie en l'air. Ouais. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai rencontré Rémy Besançon.
Ah oui, c'est vrai.
Mais oui, j'étais très content parce que c'est un mec qui a fait beaucoup de films qui m'ont beaucoup plu. Et dans Ma vie en l'air, à un moment, le personnage principal, Simon Elbaz, dit « Quand t'as 5 ans, ton père, c'est le plus fort du monde ». Tu vois, et moi j'ai le souvenir effectivement d'un anniversaire, on est à la mer de sable, je sais même plus où c'est, mais je sais qu'on est là-bas.
Hermenonville.
Voilà, merci Google Maps.
Je sais pas comment je sais ça, mais je le sais.
Et tu vois, j'ai un ballon de foot pour mes 5 ans et mon père dégage ce ballon dans le ciel. Et pour moi, le ballon n'est jamais redescendu, tu vois. Dans oui, ma tête, vois. Dans mon souvenir, ouais. Ce ballon n'est jamais redescendu. Il est toujours sur Mars. C'est peut-être pas pour ça que ça me fascine. Donc il dit à 5 ans ton père c'est le plus fort. Alors je me souviens plus exactement du truc, vous regarderez, mais quand t'es adolescent ton père c'est un con, tu vois, il a rien compris, il comprend rien à rien. Quand t'as 20 ans tu te dis bah il y a peut-être pas de tort, surtout quand même Roger, dis donc. Et puis quand t'as 30 ans tu te dis tu te dis plus rien parce que ton père est mort et tu peux plus lui parler. Et c'est le moment où justement t'as un peu fait l'addition, je dirais, et la soustraction de tout, et que justement tu peux avoir une discussion avec lui. Et je saurais que trop vous conseiller de. En même temps, ça se provoque pas, tu vois. Enfin, si ça se provoque.
Si ça se provoque,
mais...
au contraire. Ah, c'est ça... tout mon bail. Hein. C'est vraiment. C'est bien sûr que ça se provoque.
Ouais.
Si t'attends que ton père vienne te parler. Tu vas attendre le jour de ton bac, les résultats, tu vois, un truc vraiment genre, ouais. Ok, désormais mon fils est adulte, il faut que nous ayons cette discussion, tu vois.
Mais c'est vrai qu'ils savent tellement pas faire ça, enfin, tu vois. Non. C'est... Et encore, j'en sais rien, le jour où je serai père, tu vois, si ça se trouve, je serai, attends, fiston, on va parler, ouais, un bonhomme ou quoi. Non, j'espère que je serai pas comme ça.
Ouais, t'as l'air mal barré.
Le reniement, le mec qui se renie totalement. Non, t'es un dur, mon fils, lâche rien, casse des gueules.
En fait, Fab, là, ton truc, là, ton podcast, là. Ouais. Allez, ça dégage.
Tu m'effaces tout. Pas que mon fils tombe là-dessus, moi. Hein. Je suis un rude. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est quand même pas la génération qui a l'expression la plus simple, quoi.
Ok. Ouais,
un peu un cliché.
De quoi ?
Un peu un cliché de dire ça, mais bon.
C'est quoi pour toi, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un vrai truc entre le mec bien, enfin, de construction autour du mec bien ?
C'est un déclic plutôt. Tu sais, t'as un déclic féministe, t'as un déclic, je pense aussi. Alors nous, on n'a pas vraiment de mot masculin, parce que masculiniste, ça marche pas. C'est plutôt le camp d'en face. On a un vrai déclic. Tu vois, on n'a pas de mot déjà.
Mais bien sûr. En fait, aux US, ils utilisent un truc vraiment bien. Ils appellent ça.
C'est pas manhood.
C'est maleness, il y a maleness qui est chelou, tu vois, comme ça, qui veut un peu dire virilité, tu vois, aussi, mais qui est intéressant, en fait, tu vois, je te vois tout de suite faire, virilité, je trouve qu'il faut savoir embrasser sa part de virilité.
Oui, on pourrait
vrai.
Parler de puissance après, parce que c'est aussi un truc.
Mais tu sais, il parle de masculinité consciente.
Ah, ok.
Et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est mindful masculinity. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant comme concept. C'est une autrice dont j'ai plus le nom. Je vous mettrai le lien si vous voulez lire son. Bien sûr, c'est une meuf qui a vendu ce truc-là parce que après tout, pourquoi pas. Mais elle parle de ça et je trouve que c'est assez malin en fait. Tu vois l'idée de se dire, ok, en fait, je suis conscient d'être un mec et d'être masculin et donc de à la fois prendre ce qui m'intéresse,
pas, quoi.
Voilà, c'est ça, et de rejeter ce qui m'intéresse moins dans cette idée-là.
Donc non, ça a été un déclic plutôt, comme j'ai eu donc un déclic féministe, j'ai eu ce déclic de masculinité consciente, je reprends ce terme à mon compte, tu vois que c'est Justine Baldoni,
non.
C'est un mec, il a fait un TED pour expliquer pourquoi il allait être féministe.
C'est le
Et
fameux acteur de...
Ouais, un mec tu sais, hyper baraque, oui. Machin. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'il dit dans son TED, j'ai commencé à parler de masculinité sur mon Instagram. J'étais, tu connais, you know what, ce que je vais dire. J'avais majoritairement des meufs, les mecs s'en foutaient. J'ai commencé à me filmer en train d'aller à la salle en glissant 2-3 trucs de masculinité dedans. Tout d'un coup, les mecs disaient, oh là là, mais quel mec! Il a tout vu, il a tout compris. Tu vois, enfin, il avait utilisé un peu les outils. Il avait fait, c'était son cheval de Troie à lui. Et donc, il a une émission, qui s'appelait, je crois que ça n'existe plus, Man Up. Où il est en fait à table, il bouffe avec 4-5 mecs, et dedans il y a un mec qui s'appelle Matt McGorry, je sais plus exactement son nom, qui à un moment dit ce truc, il dit c'est quoi un vrai mec ? C'est quoi un vrai mec ? Un vrai mec, c'est un mec qui a des meufs, c'est un vrai mec qui est, tu vois, qui hésite pas à s'imposer, qui hésite pas à rentrer dedans, enfin c'est un bonhomme, un vrai, tu vois, tout ça. Et il dit c'est quoi un mec bien ? c'est un mec qui prend soin des gens qui sont autour de lui, c'est un mec qui est droit, c'est un mec qui fait preuve de droiture, mais en même temps, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Et il dit, le problème, c'est que la société nous poussera toujours à être un vrai mec au détriment d'être un mec bien. Et le jour où ce truc-là est rentré dans ma tête, ça a pareil, ça a tac, 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 tu vois, tout a débloqué. Je me suis dit, ça m'a permis, moi, de me dire que, en fait, je pouvais avoir une puissance qui était positive. Et en tant que mec, avoir, parce qu'on dit, la virilité, c'est nul, c'est machin, mais non, mais en même temps, tu vois, je pense qu'on a besoin, nous aussi, d'exprimer de la puissance, comme le fait pour les femmes d'exprimer de la puissance a été libérateur. Mmh. Je pense que nous, le problème, c'est pas d'exprimer de la puissance, parce que ça, pour en exprimer, on en exprime, mais dans tous les sens, et pas les bons. Le problème, c'est de l'exprimer de façon positive. C'est d'avoir une puissance qui va être positive et dont on va pouvoir faire quelque chose qui ne va pas détruire d'autres gens, qui va pas se faire, on va pas s'imposer au détriment d'autres gens. Et puis j'ai oublié ce que je voulais dire ensuite.
Mais c'était déjà très bien.
Oui.
Je te vois de plus en plus sur Insta. Relayer des trucs. Je te sens assez en colère, en fait, d'une manière générale, sur le modèle sociétal et surtout sur les autres mecs.
Alors, oui et non.
Okay.
C'est justement là où je voulais.
Okay.
Donc, du coup, nous sommes connectés, mon bon Fabrice. ce que je voulais dire, c'est que ça m'a aussi justement. Amené à avoir un regard qui n'est pas du tout un regard, qui est un regard qui devient un regard politique, mais l'affaire Darmanin, qui est un peu un. Tu vois, où j'ai partagé un truc, ouais, sur Instagram, qui a été un peu le truc qui a allumé la mèche chez moi, c'est que je me suis dit, ce mec a des procès sur le dos, donc la justice fait son travail selon le terme consacré, enfin on espère qu'elle peut le faire. Le truc avance très bien, mais juste si tu prends un pas de côté par rapport à ça, est-ce qu'en tant que mec, on mérite pas mieux comme modèle? Quand les meufs, tu vois, nous citent, tu vois, quand Michelle Obama vient en France et qu'elle remplit Bercy, et ok, tu vois, c'est cool. Tu vois, je trouve que c'est une meuf, bon, je la connais pas, si ça se trouve, c'est une personne horrible, tu vois, machin, mais je trouve que c'est un modèle positif. Je peux pas citer son nom sans trébucher 14 fois, mais la juge suprême, oui, Ruth Bader Ginsburg, pardon à sa mémoire, décède, ok, tu vois, ça, on peut en être fier. Nous aussi, on en a, tu vois, des modèles positifs, mais... C'est vraiment ça, les modèles qu'on nous donne? C'est vraiment, tu vois, Darmanin, notre... moi, un mec qui est au gouvernement, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose de... C'est pas n'importe qui, tu vois, c'est un ministre. Dupond-Moretti, c'est vraiment ça qu'on veut. C'est vraiment un mec qui dit que il aimerait bien vérifier les chiffres, tu vois, des plaintes pour viol, là, parce que ça lui semble quand même un peu bizarre. C'est vraiment, tu vois, ce modèle de... Je pense qu'il y a une forme de droiture et de... qu'on est en droit d'attendre de ces gens-là. Et c'est l'expression, c'est difficile après de dire aux gens, c'était Pénélope qui avait dit ça une fois, c'est difficile de dire aux gens qu'on peut pas dire telle chose si les hommes politiques le disent à longueur de temps. Mmh. C'est difficile de leur dire que ça, c'est pas bien de le faire si tu finis ministre, si tu vois, abuser de ma position pour obtenir une faveur sexuelle. Si le ministre le fait, pourquoi j'ai pas le droit?
Et c'est vrai que... en France, en politique, j'en vois pas des caisses. Hein.
Mais non, j'en vois pas. Et c'est ça qui me met en colère, c'est que la grande
cause. Et même
cause
dans le paysage. Je te parle même pas.
Mais
du.
Oui.
Je parle même pas du des ministres, hein, ou dans le paysage politique. J'en vois pas des masses.
Bah, tu sais quoi? Tu sais ce qui est horrible, c'est que y en a un qui est évident, c'est Barack Obama, mais il est plus dedans. Tu,
oui,
vois, et puis dans le game, ça y est. Mais c'est que, pour te dire... alors, j'emploie ces mots avec beaucoup de guillemets. Hein, mais quelque part, il y a peut-être aussi une invisibilisation de ces gens. C'est qu'il y a un membre du Congrès américain dont j'ai oublié le nom. C'est con que j'ai pas pris mon téléphone. Parce que... Mais tu vois, j'ai oublié son nom. Alors que ce mec-là fait partie des gens qui ont organisé les marches aux États-Unis dans les années 50 ou 60 de Selma à Montgomery.
Ah.
C'est, tu vois, cette fameuse Lewis, Robert Lewis.
Après vérification.
Damn.
John Robert Lewis.
Allez.
Allez, hop.
emballer, c'est peser. Bah, c'est pas des choses qu'on, c'est pas des gens qu'on montre, c'est pas des gens qu'on valorise. Quand si je suis en colère, c'est que quand on, quand tu vois Emmanuel Macron nous explique que il a eu avec Darmanin une discussion d'homme à homme, les yeux dans les yeux. C'est quoi une discussion d'homme à homme ?
J'aurais bien aimé l'entendre, cette discussion d'homme à homme, en vrai.
Ouais.
Je sais pas ce qu'ils se sont dit.
C'est quoi une... Et puis, qu'est-ce qu'il y a à faire une discussion d'homme à homme pour, par rapport aux institutions, tu vois, de notre pays, par rapport à l'image que ça envoie, par rapport à... Tu vois, quand on a dit à Zizou, t'aurais pas dû mettre un coup de boule à Materazzi, tout ça, quelle image sur les enfants, bah écoute, à la limite, j'excuserais plus, parce que quand même, quel connard, Materazzi.
Le mec qui craque,
qui a rien compris, tu vois, qui part en roulis. Non, évidemment que c'était pas impardonnable, mais que c'était inexcusable ce qu'il a fait, mais c'est presque pire, tu vois. Je sais pas s'il y aurait une gradation, en fait. Je crois qu'il faudrait pas mettre de gradation.
Non, mais... je pense pas. Mais moi, je trouvais que ça rendait Zidane humain.
Ouais.
Tu vois, ça, ok, en fait, bah, être un mec, c'est aussi être capable parfois de péter un câble. Et en fait, c'est pas grave, ça fait partie du jeu.
Ouais.
Parce qu'en fait, t'as le droit. Parce qu'en fait, t'es humain, on t'insulte.
Parce qu'on t'a poussé à bout.
On t'insulte,
parce
que... Tu vois, il y a un moment donné où juste tu craques, tu mets un coup de tête au gars, tu te fais sortir, ton équipe perd. Je veux dire. C'est un peu une tragédie, le Bills, quoi, tu vois. Et en même temps, c'est juste parce que on est aussi, on était aussi à ce moment-là, dans, à ce niveau-là de la compétition, parce que Zidane était Zidane, le génie qu'il était.
Mais évidemment, on serait jamais arrivé là s'il n'était pas revenu.
Mais c'est ça aussi, non, je pense aussi être un mec bien, tu vois, c'est d'être capable d'accepter que bah, parfois on a de la violence en nous.
Mais qu'on n'est peut-être pas obligé de la rediriger vers... nous, on a des, je sais pas comment dire, des exutoires, voilà, qui je pense, et je pense que dans notre rapport aux femmes, là, on fait passer.
Sociétalement, oui.
Cette forme de domination, tu vois, sur les femmes pour l'exutoire de quelque chose qui, quelque part, n'ont rien à voir avec elles, tu vois. Il y a des frustrations qui atterrissent sur des femmes et qui. Sont en fait l'expression d'autre chose. C'est pour ça que, aussi, que je pense que, merci, tu vois, Victoire Tuaillon du podcast que t'as fait. Merci à toutes ces meufs qui, merci
les
à Mimi,
sur la table.
Tu vois, qui a fait, tu vois, ce podcast. Mais en fait, t'as envie de dire que maintenant, en fait, quelque part, on, il y a que des mecs qui peuvent aller creuser de l'autre côté. Tu vois, il y a, tu vois, parfois on dit pourquoi les mecs sont pas féministes, mais parce que les trois quarts sont trop loin. Enfin, pour être féministe, faut une déconstruction, il faut une faille, tu vois, quelque part, une passerelle involontaire. Mais tu vois, ma mère, je pense, a un rôle un peu là-dedans, dans la sensibilité que j'ai pu avoir, tu vois, au fait qu'une femme forte, ça peut exister, et que c'est, tu vois, bon, on va pas faire ma thérapie ici, mais en tout cas, ça a été important, je pense.
Mais ça vient de ta mère.
Mais ça vient de ma mère. Mais peut-être de mon père, j'en sais rien, parce qu'il n'était pas marié avec elle pour rien. Tu vois, je pense que s'il l'aimait, c'est aussi parce qu'il aimait ce qu'il représentait. J'imagine, j'en sais rien, tu vois, genre de choses que j'aimerais bien savoir. Mais la plupart des mecs, tu peux pas leur demander d'être féministe, leur demander de comprendre tout ça, parce qu'ils ont juste déjà même pas l'empathie et la petite ouverture, tu vois, de vulnérabilité, d'empathie que ça demande. De te dire que bah, peut-être que si cette meuf te fait une remarque ou si cette meuf dit qu'elle a eu des problèmes avec tel mec, c'est pas juste pour du buzz, tu vois, sur Twitter, c'est qu'il s'est peut-être passé quelque chose, mais on est les trois quarts, on est trop loin, quoi. Tu vois, j'ai, dans l'expo Courtrajmé au Palais de Tokyo, il y a
Courtrajmé qui est une boîte de prod
qui est devenue une école qui a été montée donc par Lajli, JR, Kim Chapiron, je crois. Et ils ont donc c'est une formation maintenant où ils ont des jeunes qui viennent faire de la photo, du ciné, tout ça, et ils ont fait une expo au Palais de Tokyo, la haine 25 ans après. Et il y a notamment une série de photos où je crois que c'est une meuf qui, je sais pas d'ailleurs, c'est une meuf ou un mec qui a pris la photo, mais elle prend la photo d'un gars qui est en train d'engueuler sa sœur dans la cité et qui lui explique en fait pourquoi il faut pas qu'elle aille parler au mec, pourquoi il faut pas qu'elle sorte comme ça, pourquoi machin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais relayer, ça m'y fait penser, sur Instagram, parce que c'est aussi une partie du problème, c'est-à-dire que c'est la meuf qui prend, il la frappe pas sur le truc, il l'interpelle, mais il la tient quand même par le bras, mais parle à tes potes.
T'en parles justement dans ton interview de Victor, ouais, où tu racontes une soirée où tu t'es retrouvé avec des potes qui sont des potes à toi, où t'avais aucune meuf pour regarder un match de foot, et que les meufs, en gros les mecs parlaient des meufs de façon assez dégradante en fait, avilissante. Et Mimi qui a toujours la bonne question, elle te demande est-ce que t'es intervenu en fait, et tu dis bah non, parce que le groupe m'a tiré vers le bas à ce moment-là. Et ça fait partie aussi du problème, non? Comment tu...
Je suis parti.
T'es parti.
C'est des potes d'un... C'était pas mes potes. Parce que, pour le coup, je pense, j'en sais rien. Faudrait que je sois confronté au truc. Hein. C'est toujours beau les bons discours, mais c'est mieux quand on prend sur le vif. C'était des potes d'un pote. Et on se retrouvait, en fait, tous les ans pour regarder la finale de Ligue des Champions. Et là, il y avait tous ses potes à lui qui étaient là. Et effectivement, l'après-midi, juste avant, ils parlent des meufs qu'ils ont, je sais plus ce qu'ils disaient, déglinguées,
déboîtées,
baisées, machin. Et t'as une espèce de nausée parce qu'il y a, une espèce de surenchère. Il y a une espèce de surenchère, en fait, où justement, il faut toujours en montrer plus, il faut toujours en dégommer, déboîter plus. Et effectivement, j'ai assisté à ça et j'ai dit à mon pote, écoute, en fait, je vais rentrer chez moi. Tu vois, je vais... C'était pas mes potes. Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, j'essaierai de dire quelque chose, mais en même temps...
Comment tu les interpelles, tu vois? Comment tu les interpellerais? Je sais pas, je me dis, peut-être je poserais la question. Eh, mais bébé, c'est vraiment ta... C'est une fille avec qui t'as couché? Elle te plaisait?
Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que
remettre
la question...
Peu, remettre un peu du sentiment et de l'émotion, quoi, dans le truc. Enfin, je sais pas, après...
Peut-être mettre face à ce qui s'est vraiment passé, à ce qu'il racontait, tu vois, il y avait un truc dont, tu vois, il y avait une histoire avec une meuf semi-bourrée, machin. D'ailleurs, bourrée, j'imagine, ça n'existe pas, semi-bourrée. Et effectivement, je pense que poser la question, c'est-à-dire remettre un peu de perspective sur ce qui s'est vraiment passé. Ouais, peut-être. Je sais pas, j'ai pas de réponse.
Non, non, bah, après, il n'y a pas de bonne réponse, hein, je pense. Mais c'est juste le... Excuse-moi, mais tu sers de vaisseau, tu vois, pour... Je veux aussi parler aux gens qui écoutent.
Ouais, bien sûr. Avec mes potes, c'est plus simple parce qu'on se connaît, parce qu'ils ne sont pas mes potes non plus pour rien. Ils ont quand même cette... Même si parfois, ils ont des questions, tu vois, et on a cette discussion possible entre nous.
Okay.
Avec des parfaits inconnus, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, mais en même temps, il faudrait.
Je pense que ça fait partie du truc. Enfin, ça fait partie de la solution, mais effectivement, ça t'oblige, toi, à passer pour le relou.
Ouais.
De service.
Mais, tu vois, c'est ce que l'AMUA,
ouais.
Je trouve qu'il a trouvé un terme génial pour ça. Il parle de la flinte. T'as pas entendu ça?
Si.
Dans Quête Latérale, il dit qu'en fait, quand tu rentres dans la déconstruction...
Donc, Quête Latérale, plusieurs... qui est un podcast
sur le jeu vidéo, ouais. Et où c'est plus que du jeu vidéo, parce que moi, bon, je joue assez peu, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se raconte, tu vois, autour. Et il dit, quand tu te déconstruis, il parle de l'affaire Ubisoft, il dit, bah, il y a un moment où il y a un chemin, tu vois, chaque marche que tu franchis, c'est une volée d'escalier, tu vois, tu progresses à vitesse grand V. Et puis, il y a toujours ce moment où tu te rends compte que, bah, en fait, il va falloir tout remettre en cause, qu'il va falloir être le relou, qu'il va falloir, bah ouais, c'est ça. Et là, il y a la flinte, la flemme intellectuelle d'aller plus loin que ça. Et je pense que, tu vois, si là, je viens au micro, je me mets pas un objectif, tu vois, mais en tout cas je prends conscience à mon rythme, hein, et c'est peut-être trop lent, mais tu vois que je peux pas juste être dans le discours, ce qui rejoint ce que je t'avais dit au début, c'est de venir pour essayer de vraiment te parler, d'essayer de prendre vraiment la parole, d'essayer, tu vois.
Mais c'est trop bien ce que tu racontes, hein, tu sais.
Bah,
je pense que c'est très important de libérer la parole. Et en fait, moi, je pars du principe que tous les mecs qui sont venus dans le Boys Club sont quelque part des petits héros, tu vois, de l'époque. Parce qu'en fait, c'est une prise de risque aujourd'hui. C'est ça qui est fou, en fait. Mais c'est que c'est une prise de risque et c'est pas un truc qui est facile.
Tu trouves que c'est une prise de risque ?
Ouais, bien sûr. La preuve, t'as pas osé le faire il y a 4 ans.
Ouais. Non, mais je trouvais qu'aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était... C'est pour ça, en fait, on rejoint encore le discours, c'est comment tu le fais, tu vois. Je sais plus lequel de tes invités disait qu'en sortant du podcast, il avait vraiment parlé à ses potes. Pour moi, le héros, c'est pas de venir faire, tu vois, pas de venir parler dans ton micro, c'est très bien et je suis content de le faire et j'espère avoir dit des trucs, tu vois, intéressants, mais quelque part, je trouve ça plus fort, le mec qui s'est dit « Ah, oh, putain, faut que je parle à mes potes, c'est chaud !» Tu vois, ça c'est fort, tu vois, de changer ton comportement une fois que t'as lâché ton discours propre, tu vois, dans le Boys Club, ça c'est fort.
Minu m'a engueulé hier parce qu'elle a réécouté l'épisode avec Cyrus et elle m'a dit « Putain, t'as enlevé la question sur les modèles masculins positifs !» Et c'est vrai que c'est une question auquel elle tient et je comprends pourquoi en fait, c'est que, comme tu dis, on les invisibilise, ils sont pas là, tu vois. Donc, tant qu'à faire, autant les mettre en avant, tu vois. Et donc, je vais reprendre cette question. Oui. Elle a bien raison. C'est qui, pour toi ?
Eh ben, en fait, alors, j'emprunte ce mot invisibilisé, hein, on le met avec beaucoup de guillemets, parce que...
Non, mais on n'en parle
pas. Voilà, on le vit pas dans les mêmes proportions qu'une Alice Guy, tu vois, dans l'histoire du cinéma.
Non, bien sûr.
Qui est dans le cinéma, mais je pense qu'il y a un vrai truc à réfléchir quand même, effectivement, sur ces modèles qu'on montre pas ou qu'on valorise pas. J'ai cité tout à l'heure, pour moi, Barack Obama, tu vois, c'est quand même un mec qui... déjà, il est le premier président noir de son pays. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire qu'il n'en a pas fait assez. Mais quand tu regardes, tu vois, c'est jamais un mec qui est apparu faible. C'est quelqu'un qui, quand tu regardes les documentaires, quand tu vois, qui n'a pas hésité dans des réunions importantes avec des dirigeants des pays et qui pourtant, c'est pas la teuf, tu vois, à prendre la parole, et tout en gardant, je trouve, un discours positif, sain, justement honorable. Il y a certainement des choses qu'on peut lui reprocher. Tu ne deviens pas président des États-Unis, tu vois, en faisant un sans-faute, tu vois. Mais pour moi, ça, oui, c'est un modèle. C'est-à-dire que c'est un mec qui jamais ne s'appuie sur sa virilité, sa puissance, tu vois, comme peut le faire Trump, tu vois, cette espèce de masculinité dégoulinante et dégueulasse. Mais c'est quelqu'un qui sait être fort avec des gens forts, qui sait... aussi faire preuve d'humour, qui sait checker un gamin, qui sait, tu vois, qui se comporte juste bah, comme un mec bien. Je pense que c'est le... Ouais.
C'était une excellente fin, franchement.
Très bien.
Pour cette interview. T'es déçu parce qu'on n'a pas parlé de ta bite, non, c'est ça ?
Non. J'ai beaucoup parlé, mon bon Fabrice.
Merci beaucoup, Olivier.
Je t'en prie.
C'était très bien.
Bah, merci.
T'es content ?
Je suis très content.
Je sais pas, t'as l'air un peu tout down là.
C'est beaucoup de choses à sortir parce que j'ai l'impression de pas l'avoir fait à moitié et je trouvais ça cool de pouvoir tu vois essayer vraiment de parler de ces choses là et tant mieux. Bon, tu couperas tout ça.
C'est... Non, pas du tout. Merci beaucoup d'être venu.
Je t'en prie. Salut.
C'est pas toi qui va décider ce que je
fais. Non, mais je vais à la fin, je suis un peu...